Alors, je vais vous parler d'un sujet qui envahit nos actualités. C'est que l'année 2015, le début d'année 2016, a été marqué, entre autres, par les attentats. Novembre 2015 à Paris, Charlie Hebdo en janvier 2015, l'hypercachère et plus récemment Bruxelles en mars 2016. Alors, la plupart d'entre nous, j'en fais partie, nous ressentons ces attentats comme des agressions à nos vies, à nos cultures, à nos valeurs et à nos modes de comportement. Et ces attentats, ils font jaillir en nous des émotions et des sentiments qui sont compréhensibles au vu des circonstances. Alors, ça peut être la peur, la colère, la haine, la tristesse, le désir de vengeance. Je vous laisse compléter cette liste en fonction de vos personnalités. Et ces émotions et ces sentiments, ce sont les mêmes que ceux qui nous animent lorsque nous sommes nous-mêmes ou lorsque nous ressentons nous-mêmes une agression. Lorsque nous nous sentons ou lorsque nous sommes agressés, le plus souvent verbalement, parfois physiquement, ce sont ces émotions-là et ces sentiments-là que nous ressentons. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu, au cours de ce temps de message, de tout ça. Les émotions, les sentiments, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous en fassions? Parce que les réactions émotionnelles négatives, elles existent depuis la création du péché. Hein, je ne vous apprends rien. Première réaction émotionnelle négative, Caïn qui tue Abel. Bon, il pouvait faire un autre choix, il a fait celui-là. Une autre réaction émotionnelle négative, c'est dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus est arrêté, et puis que un des disciples attrape son épée et coupe l'oreille d'un des gardes. Donc, pour Caïn, c'est Genèse 4, chapitre 4, verset 8, et pour Gethsémané, Luc 22, 49 et 50. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur ne condamne pas les émotions, mais il porte un jugement sur nos sentiments. Et on va voir ça. Alors, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, les études psychologiques depuis longtemps ont déterminé 6 émotions de base, puis plus récemment 4 émotions de base, qui sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Ce sont des émotions que les bébés ressentent. Hein. Au départ, il y en avait 6. C'était la joie, la tristesse, la peur, la surprise, la colère et le dégoût. Et on a mis la peur et la surprise dans le même sac, je dirais, comme la colère et le dégoût. En fait, les psychologues, ils ont déterminé ces 4 émotions fondamentales au vu des réactions physionomiques du visage des enfants et de nous aussi. Donc, 4 émotions de base, la joie, la tristesse, la peur, la colère. Ces émotions, négatives ou positives, mais quand cette émotion est négative, ne sont pas des péchés. Ce sont des émotions réactionnelles qui font partie de notre être. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire aux Éphésiens en citant le psaume 4, verset 5, « Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. La colère n'est pas un péché. » En revanche, toutes les émotions que nous allons élaborer, construire de manière consciente ou de manière inconsciente, à partir de ces émotions, ces sentiments-là, ne sont pas neutres. Nous en sommes responsables. En effet, nos sentiments, ils sont construits, ils sont réfléchis. Ils vont dépendre de nos réflexions, de nos réactions, notre culture, notre éducation, de notre environnement et de nos choix. Hein ? Face aux attentats, aux crimes, et à toutes les agressions dont des personnes peuvent être victimes ou spectateurs, parce que parfois on peut être extrêmement touché par une agression alors qu'on n'est que spectateur. Hein. Je vous invite à lire, enfin, à m'écouter sur deux réactions particulières. La première, c'est le psaume 137, versets 1 à 4 et puis 7 à 9. Alors, sur ce psaume, a été écrite une chanson, je ne sais pas, les plus anciens parmi nous, de Bonéem, On the River of Babylon. Il y a certains, je vois, qui se rappellent un peu de ça. Et c'est basé sur un psaume. Ah non, surtout pas. Déjà, que dire le titre en anglais, c'est un peu dur, alors je ne risque pas de la chanter. Mais je vais vous lire ce passage. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au saule du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Mais comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère ? Éternel, souviens-toi des enfants des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, ils disaient « Rasez-la, rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser sur un rocher. » Waouh, c'est dur, hein ? Mais c'est écrit dans la Bible, hein ? Ça, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment extrêmement violent comme réaction, mais c'est présent dans la Bible. Parce que la Bible balaye, pour nous enseigner, toute la dimension des sentiments humains. Là, on a une émotion de tristesse neutre. Mais sur cette émotion de tristesse, quel sentiment de haine et de vengeance est construit ? À l'opposé de cette attitude, une autre réaction que vous avez peut-être lue, celle de Antoine Liéris, un journaliste à France Bleu qui a perdu sa compagne dans les attentats du Bataclan. Alors il a publié une réaction très courageuse qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Ça vous dit quelque chose peut-être. Alors, voici le texte intégral. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur, le cœur de Dieu, hein, son cœur avec un S majuscule. Alors, non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Je l'ai vue ce matin, enfin, après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie. Que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j'en suis tombée éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Excusez-moi. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si cet homme est croyant, mais ce texte a été publié par les réseaux sociaux et par le journal La Croix. Et ce texte, il pose beaucoup de questions. Enfin, il m'en a posé à moi. Il dit « Vous n'aurez pas ma haine. » Alors, est-ce qu'il est prêt à la donner à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il est prêt à donner sa haine à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il va transférer sa haine à quelqu'un d'autre ? Et si il ne donne pas sa haine, qu'est-ce qu'il va mettre à la place ? De l'amour ou de l'indifférence ? Il faut savoir que de Caïn à aux apôtres qui entouraient Jésus-Christ, le désir de vengeance, la violence, pour répondre à la violence, fait partie de notre nature humaine. Ceux qui pensent que l'être humain est naturellement bon n'est jamais allé dans la cour d'une école maternelle. Hein? Et je te prends ce truc et je te tape dessus et voilà. La construction d'éléments, de sentiments positifs, elle vient bien sûr de la part positive de nous-mêmes, mais elle vient de notre éducation, du système de valeurs auquel nous adhérons. La non-violence n'est pas naturelle, elle est construite. Ou pas. Hein? Les djihadistes n'ont pas construit un système de non-violence. Mais si Dieu nous a créés à son image, ça veut dire que les émotions et les sentiments qui sont en nous sont aussi présents en Dieu. Hein? L'amour, la compassion, le plaisir d'être ensemble, la générosité, le don de soi, le désir de mieux se connaître, de passer du temps ensemble, le désir de justice, la colère devant l'injustice, ou la souffrance, la tristesse, la liste n'est pas exhaustive, toutes ces émotions et ces sentiments sont présents en Dieu et en son incarnation, Jésus-Christ. Je vous cite quelques passages que vous connaissez peut-être. Dans Marc, chapitre 6, verset 34. Jésus, il est ému de compassion devant la foule et il procède à la première multiplication des pains. Dans Jean chapitre 11, verset 38, quand il arrive au tombeau de Lazare, il est profondément indigné et bouleversé. Luc 19, 41, il pleure sur la ville de Jérusalem. Luc 22, 14, parle du désir de Jésus de partager la Pâque avec ses disciples. De la même manière, Dieu ressent des émotions, ressent des sentiments. Je vous en cite un passage, c'est Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et en eut le cœur peiné. Notre Créateur a des émotions et des sentiments. C'est normal qu'on en ait. Et c'est normal qu'on ait ces émotions et ces sentiments. Ils sortent de nous. Nous sommes toutes responsables de nos sentiments, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est pour ça que quand on confesse nos péchés, eh bien on confesse aussi nos pensées négatives ou impures, nos paroles, nos actions. Caïn, il a été responsable de tuer Abel. Judas, il est responsable d'avoir dénoncé Jésus. Hein? En revanche, il y a un sentiment, une émotion, qui ne fait pas partie des sentiments appartenant à Dieu, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, d'après le dictionnaire, c'est un état ou un sentiment, voilà, de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque chose, ou qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un. Absence d'amour, une autre définition, absence d'amour chez quelqu'un qui ne répond pas aux sentiments qu'il inspire. Martin Luther King nous le rappelle, « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Et je ne sais pas si vous connaissez, alors c'est un Allemand, pardonnez-moi aux germanophiles, ici, un texte de Martin Niemöller. Niemöller. Ah voilà, d'accord, merci. qui a dit, et vous le connaissez certainement ce passage aussi. Alors, il est mort en 1984. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté, je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je ne suis pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Voilà le résultat de l'indifférence. Alors, ce pasteur était protestant. Il a été arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Merci. Il fut ensuite transféré à Dachau. Il a été libéré du camp et voilà. C'est encore dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16, que l'ange fait dire à Jean, « Je vomis les tièdes ». Alors, les deux textes que je vous ai lus, hein, le psaume 137 et puis le texte de Antoine, j'oublie son prénom, son nom de famille, Liéris, Antoine Liéris, il nous parle de la haine, il nous parle de la vengeance, et il nous parle aussi de la justice, et de l'amour. Et je voudrais quand même dire que si on renonce à la vengeance, ou que renoncer à la vengeance ne veut pas dire renoncer à la justice. La différence entre la vengeance et la justice, c'est que la vengeance, elle est privée. Hein, alors que la justice, c'est une sorte de délégation que les citoyens donnent à l'État. C'est une délégation de la vengeance privée qui n'est plus exercée par une personne, mais qui est exercée par l'État. Mais la justice, quand elle s'exerce sur Terre, par le biais du travail des policiers, par le biais des juges, elle peut nous paraître à la fois relative, c'est-à-dire qu'on se dit, oh ben vraiment, celui-là, il n'a pas eu tout ce qu'il méritait, donc trop clémente, et puis aussi elle est limitée. De nombreuses personnes échappent à la justice. Au contraire, la justice divine, elle est parfaite et elle est absolue. Contrairement de notre justice humaine. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 20. Le Seigneur ne nous demande pas de nous venger. Il ne nous demande pas de faire justice nous-mêmes. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6, qu'il est dit que personne ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Et surtout, on va se rappeler et on se console en se disant que Dieu fera justice. Parce que si les hommes échappent à la justice humaine, ils n'échapperont pas à la justice divine. C'est dans Actes 17, versets 30 et 31. Dieu annonce à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, c'est l'apôtre Paul qui parle, qu'ils doivent changer d'attitude parce que il, Dieu, a fixé un jour, il jugera le monde avec justice. Par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve en le ressuscitant. Le monde sera jugé par Dieu par le biais de Jésus-Christ. Alors, voilà pour la vengeance et voilà pour la justice. Mais qu'est-ce qu'on fait de la haine ? Je vous rappelle, vengeance, justice, haine et amour. Alors, pour ça, on va lire un passage qu'on connaît. Enfin, moi, c'est un passage que régulièrement je relis parce que je trouve qu'il est magnifique. C'est Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, dit Dieu. » À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La haine et la vengeance, elles appartiennent à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est tiré de Deutéronome 32-35. Et ça dit aussi, toujours dans ce passage de Deutéronome, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent, quand leur pied trébuchera. En effet, pourquoi Dieu exerce sa souveraineté sur les êtres humains en se chargeant de la vengeance et de la justice et qu'il nous laisse à exercer l'amour? C'est parce que d'abord, il veut nous protéger. Parce que le sentiment de vengeance, le sentiment de haine, ces sentiments sont dévastateurs. Des gens ont perdu leur vie, ont cramé leur vie entière par des sentiments de vengeance et de haine. Et le Seigneur, il veut nous protéger. C'est pour ça qu'il s'en charge. Et il nous donne de faire la meilleure part. Il nous donne de manifester, nous, l'amour, la bienveillance, les actions bénéfiques. Parce que l'amour nous appartient. La haine et la vengeance appartiennent à Dieu. Et je voudrais terminer cette intervention par ce passage d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je vous remercie.